Les engager
avec les BUT Carrières Sociales.
BUT Carrières Sociales.
Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici pour faire un petit entretien avec Jean-Marie de la FUI. Donc nous sommes plusieurs étudiantes en carrière sociale, donc lors de notre étude en BUT Carrières Sociales Parcours Animation Sociale et Socioculturelle. Et aujourd'hui, nous avons cet entretien pour parler des prisonniers, donc un public que nous parlons peu en cours et que nous avons envie d'aborder un peu plus. Et donc, lors de cet entretien, Jean-Marie, qui est visiteur en prison, va nous parler plus amplement de ce sujet.
Oui, absolument. Écoutez, vous avez fait le bon choix en m'invitant, parce que je vais pouvoir répondre à vos questions. Et c'est vrai que le sujet des prisons reste un sujet un peu compliqué. On en parle beaucoup, surtout maintenant. Mais la réalité en milieu carcéral n'est pas celle qu'on voit de l'extérieur. Donc je vais essayer de répondre à vos questions, comme vous le souhaitez. J'aime bien effectivement des questions-réponses, c'est quand même le plus agréable. Voilà.
Donc, pouvez-vous vous présenter et expliquer qu'est-ce qu'est un visiteur de prison ?
Oui, alors moi, je vais me présenter. Je ne vais pas dire mon âge parce que ça commence à être sérieux, mais j'ai dépassé les 80 ans. Et je suis père, je suis grand-père, j'ai 3 enfants, 7 petits-enfants, un fils qui est à Paris au ministère de la Santé, un fils qui habite à Barcelone après 20 ans de Chine, et j'ai ma fille qui habite à Cholet, pas loin de chez moi, qui a 4 enfants, donc, et j'ai donc 3 enfants en Espagne, 3 petits-enfants en Espagne et 4 à Cholet. Voilà, donc rapidement, j'ai une carrière qui n'a rien à voir avec cet engagement, puisque j'étais commercial dans une entreprise où je faisais pas le tour du monde, mais enfin je me baladais beaucoup. Et donc voilà, et pourquoi devenir visiteur de prison? Ça m'est tombé dessus comme ça. À l'âge de 15 ans, j'avais été voir une conférence à Angers d'un prêtre qui était aumônier des prisons de Fresnes et qui avait vécu des exécutions capitales. Et moi, ça m'avait frappé énormément. Et je m'étais dit à la sortie, d'ailleurs, il m'a dédicacé son bouquin, je m'étais dit à la sortie, quand je serai plus tard, je m'occuperai des prisons. Mais je ne savais pas comment. Et le jour où je suis devenu en retraite, j'ai toujours suivi les affaires judiciaires depuis très longtemps. J'ai une bibliothèque je dois avoir 700-800 bouquins là-dessus. J'ai toujours suivi ça de très près. Et arrivé en retraite, j'ai fait une demande pour être visiteur de prison. Alors la demande, ça ne se fait pas tout seul. Il faut d'abord avoir un casier vierge, enfin, etc., n'avoir jamais été condamné. J'ai 6 mois d'enquête autour de moi et j'ai été accepté. J'ai eu un premier 6 mois où j'ai pu commencer ce travail. Au bout de 6 mois, ça a été renouvelé. Et puis ça a été renouvelé tous les deux ans, pendant 18 ans, enfin 18, 19 ans. Et c'est moi-même qui a décidé d'arrêter. J'aurais pu continuer en Corse. Voilà. C'est passionnant.
Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le rôle que vous avez donc, auprès des détenus ?
Alors, le rôle d'un viseur de prison ou d'une visiteuse de prison, parce qu'il y a des femmes, bien sûr, en fait, c'est surtout de leur apporter pendant la visite au parloir. C'est dans une toute petite pièce. Alors, une petite pièce où il n'y a ni micro ni caméra. Il y a seulement les surveillants qui passent devant, derrière. Bon, c'est pas méchant. Et leur rôle, c'est eux qui sont demandeurs. Et quand ils sont acceptés pour voir un visiteur, on ne se connaît pas du tout. Et notre rôle, c'est de leur apporter un petit peu de l'extérieur. C'est-à-dire qu'eux ont envie de vider leur sac parce qu'ils ont vécu toute la semaine des choses désagréables, parfois beaucoup plus que désagréables. D'ailleurs, ça va très très loin. Donc ils ont envie de parler sans qu'ils soient jugés. Voilà. Or, donc ils parlent. On peut parler de foot, on peut parler de politique, on peut parler de religion, on peut parler de décoration, on peut parler de plein de choses. Il n'y a pas de sujet tabou. Même de sexualité, on en parle aussi. Parce que ça, c'est un gros sujet. C'est encore un autre débat. Et pendant le temps imparti, c'est-à-dire une demi-heure et trois quarts d'heure, une heure, ça dépend. Moi, je voyais 3 détenus en général. Donc chacun 3 quarts d'heure en général. Ça leur permet de vider leur sac. Et puis le rôle d'un visiteur, c'est de les écouter. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de dire voilà, un tel, ceci, ma femme, j'ai plus, elle me téléphone plus, j'ai plus ma femme, mes enfants, je sais pas ce qu'ils deviennent, mes petits-enfants, enfin, toute la vie, en fait, toute la vie. Donc ça leur fait beaucoup de bien et j'en veux pour preuve que le rôle d'un visiteur de prison est important parce que quand il m'arrivait de partir, parce que j'avais une association aussi sur Madagascar, où j'ai été président d'une association à Cholet pendant 12 ans, et j'allais assez fréquemment à Madagascar monter des écoles et des cantines scolaires. Et quand je leur disais, ben, je pars à Madagascar pour 3 semaines ou 15 jours, et pas de problème, ils me disaient très bien. Et quand je revenais, ils me disaient, qu'est-ce que tu nous as manqué ? Donc voilà, ça suffit. Voilà, ça suffit. Voilà.
L'objectif principal de votre mission, du coup, comme vous avez dit, c'est d'aller visiter ces personnes. Et est-ce que des fois, vous avez eu des moments de doute ou envie d'arrêter cette mission ?
Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Des moments de doute non plus, je crois pas, parce que quand on s'engage dans un bénévolat, il y a le respect de l'engagement. Alors, on a le droit d'arrêter. Si j'avais voulu arrêter au bout de 6 mois, 3 mois, 1 an, je pouvais arrêter. Il suffisait de dire à l'administration, j'arrête, parce que ça ne me plaît pas. Non. Ce qui a été presque le plus difficile, c'est ma première visite en prison, parce que la première visite, je n'avais pas été. Maintenant, il y a des formations. À mon époque, il n'y avait pas de formation. Je me suis retrouvé en face d'un détenu qui était condamné à 18 ans de prison, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit au bout d'un moment pourquoi il était là, mais au bout de plusieurs mois. Et c'était un détenu introverti. Alors je peux vous garantir que quelqu'un qui ne parle pas, qui regarde ses godasses et qui dit rien, vous avez beau poser des questions, c'est quand même très compliqué. Et ce détenu-là, il était vraiment introverti. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je me suis dit, bah, si c'est ça être visiteur de prison, je ne vais pas y arriver, quoi, ça va être coton. Et ma foi, petit à petit, c'est détendu, je l'ai vu. Et puis après, on est devenu en très, très bonne relation. Voilà. Mais je n'ai pas eu de doute autrement. Non, c'est un engagement. Moi, j'ai toujours été passionné, de toute façon. Alors, voilà. Et je ne suis jamais allé en prison visiter des détenus avec des chaussures de plomb. Hein, réellement, j'y allais avec plaisir, c'est vite dit, avec plaisir. Mais j'y allais vraiment heureux. Voilà.
Et donc, pour revenir sur les visites, est-ce que vous pouvez nous dire, entre guillemets, le déroulé d'une visite, environ combien de temps ça dure? Donc, vous avez déjà répondu pour cette question.
Oui, mais enfin, le déroulé. Alors, encore une fois, un visiteur de prison, juste pour situer, on ne se connaît pas. Le détenu demande un visiteur de prison. Bon, on me dit à moi, bon, monsieur Delafu, vous allez voir monsieur Durand. Voilà, très bien. Et ce monsieur Durand qui est en face de moi, je ne le connais pas. Je lui dis, voilà, il me dit, moi, je m'appelle Michel Durand. Bon, très bien, Jean-Marie Delafu, voilà. Je ne demande jamais ce qu'il a fait, je ne demande jamais pourquoi il est en prison, je ne demande jamais pour combien de temps il est en prison, jamais. Alors on commence à parler à bâton rompu de différentes choses. Et ça dure, en fonction du contact qu'on a avec le détenu, ça peut durer une demi-heure, mais ça peut durer une heure et quart. Hein. Enfin, nous, visiteurs, enfin moi dans mon cas, il y en a qui sont limités. Mais moi dans mon cas, je n'ai jamais été limité par les horaires. De ce côté-là, j'avais assez de chance parce que je pouvais aller à la prison quand je voulais, j'étais un peu privilégié. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours donné, en plus, on m'a toujours proposé des détenus assez particuliers quand même. J'ai eu droit à des cas particuliers parmi les visiteurs, c'est pas mal quoi. Donc on est une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors après, il m'est arrivé une ou deux fois en maison d'arrêt d'avoir en face moi un jeune, un notamment dont je me souviens, qui était complètement alors à l'ouest, mais alors pire à l'ouest. Bon, ben, au bout de deux visites, j'ai dit c'est bon, deux visites, je continue pas quoi, parce que aucun intérêt. Puis un autre aussi en centre de détention, pareil, au bout de deux ou trois visites, il était tellement. Alors quand je dis qu'il était sale, il n'était pas sale. Il était dégueulasse. Hein. Il rentrait au parloir, déjà je me pinçais le nez. Hein. Il ne se lavait jamais, jamais, jamais. Il avait des vêtements qui étaient cirés de saleté. Donc au bout de deux ou trois visites, je dis bon, c'est bon, j'arrête parce que pas non plus tomber malade. Voilà. J'ai répondu à votre question ?
Oui, merci.
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, vous nous avez parlé donc, de vos rencontres avec les prisonniers, mais comment est-ce établi la confiance entre le détenu et vous au fur et à mesure des visites ?
Et le visiteur. Alors effectivement, il faut s'appréhender. Hein. C'est vrai, il faut s'appréhender. Je me répète qu'on ne connaît pas la personne qui est en face et lui ne me connaît pas. Il ne sait pas si je viens là par curiosité, par histoire de passer le temps, etc. Donc les détenus, ils ne sont pas fous. Ils posent des questions insidieuses. Ben, très souvent, alors, première question posée. Alors en général, on se voit, parfois on se tutoie, peu importe, on va la tutoyer. Il me dit, pourquoi tu fais ça ? C'est leur première question. Et pourquoi tu viens passer du temps alors que tu as d'autres autre chose à faire? Alors moi, je leur explique, voilà, moi, je suis passionné. Et puis, je pense que j'ai envie d'aider les gens dans ce domaine-là, des prisonniers. Alors, ils sont sensibilisés à la réponse quand on leur dit qu'on vient vraiment pour les aider, pour les écouter. Pour les... Alors là, ils commencent à... Ils se lient entre lui et moi une relation. Au début, c'est des relations très éloignées, hein, parce que encore une fois, il faut du temps pour appréhender quelqu'un. Ce n'est pas en deux visites qu'on va se dire, voilà. Et puis, il se trouve qu'au bout de 3 mois, 6 mois, ça dépend, c'est très variable, le détenu qui est en face, il dit, bah, écoute, maintenant, je vais te dire pourquoi je suis en prison. Moi, je n'ai jamais demandé. Hein, je vous le disais tout à l'heure, jamais je demande, jamais je juge, parce que ça ne m'appartient pas de juger. Hein. Ils ont été jugés par, l'État, bon, c'est fait. Donc, là, il me dit, bah, voilà, je suis en prison parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et bien, souvent, j'ai eu le cas... pas mal de fois, oui, d'accord, j'ai fait ça, mais en réalité, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est un autre, c'est le gars avec qui j'étais. Et puis il dit, tu te rends compte, j'ai été condamné à 18 ans de prison pour ça, c'est quand même lamentable, enfin, voilà. J'ai eu d'ailleurs une anecdote, je sais pas si j'ai le temps de la dire, à propos d'un jeune de Mayotte, justement, un jeune de Mayotte qui a été condamné, que j'ai visité pendant un an ou deux, là, qui savait ni lire ni écrire, etc. Puis un jour, il me dit, c'était très dur, lui, le rapport était très difficile, ça a duré plusieurs mois où vraiment je me suis accroché pour le visiter. Mais je voulais le faire, c'était un engagement, je me dis, je veux le sortir de là. Et puis, il me dit un jour, il me dit, ben, vous savez pourquoi je suis là? Je dis, non, pas du tout. Il me dit, j'ai pris 12 ans de prison, vous vous rendez compte pour ce que j'ai fait, 12 ans de prison? Ben, je dis, si tu as pris 12 ans de prison, c'est que tu les méritais. Il me dit, moi? J'ai violé une fille. Voilà. Voilà. C'est voilà, ce qu'on entend en prison, et ça, c'est réel. D'ailleurs, j'ai un chapitre sur lui, là. C'est un gamin qui savait ni lire ni écrire, et il profite de la prison pour apprendre à lire, à écrire. Il avait quoi, 22 ans, 21 ans, je ne sais pas trop. Bon, 12 ans de prison, j'y profite pour... Oh, il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc, moralité, il va être libéré au bout de... Si se tient bien, 12 ans, il va être libéré au bout de 8 ans, à peu près. Il va soit rester en France, soit retourner à Mayotte. Ben, il va recommencer, parce qu'il ne saura rien faire, il n'aura pas d'argent, il n'aura rien, enfin... Voilà, c'est une personne de perdu, quoi.
Ben là, vous avez eu un détenu où ça a été un peu compliqué, mais est-ce que sur le fait de toutes les personnes que vous avez pu visiter lors de cette expérience, est-ce que votre avis a changé du début par rapport à la fin avec tous les détenus que vous avez pu visiter?
Ah mon Dieu, oui. Ah oui, alors si vous voulez, quand j'ai démarré, donc ça fait maintenant, ça fait 20 ans en gros, hein, un peu plus de 20 ans, les détenus de l'époque, pendant, je dirais, les 10 premières années, c'était des détenus, souvent des détenus plus âgés que j'avais. Hein. Il y avait moins de jeunes en prison. Et les détenus anciens étaient des détenus qui étaient très respectueux. Si vous voulez. Moi, j'ai eu des détenus anciens qui me disaient... Ils ne savaient pas d'où je venais, hein, mais Nantes, c'est une heure de route. Hein. Et ils me disaient, on sait que tu viens de loin, même si on est malade à crever. Eh bien, quand on viendra nous chercher pour le parloir, on ira te voir. Parce qu'on doit respecter ce que tu fais. Voilà. Bon, ça, c'était avant. Et je peux vous dire que depuis, allez, 5-6 ans, les jeunes détenus sont, allez, je vais être excessif, mais imbuvables. Et j'en veux pour preuve, là aussi, un gradé que je voyais régulièrement au centre de détention, où on ne se parlait pas plus que ça. Puis il y a un an ou deux avant que j'arrête, il me dit, bah, dites donc, je vous vois depuis longtemps au centre de détention. Et voilà, bah, je dis oui, moi ça fait, alors je lui explique, ça fait 18 ans que je viens. Et je dis, je commence à en avoir ras-le-bol parce que les jeunes détenus ne respectent rien. Il me dit, moi, il y a 21 ans que je suis en prison, enfin un gradé, il m'a dit, je n'en peux plus. Il m'a dit, les jeunes détenus nous crachent dessus, nous traitent de tous les noms. Il y a eu une dégradation. Si vous voulez, je fais un rapide raccourci. On retrouve en détention un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé à propos du Paris Saint-Germain en fin de semaine. Hein, voilà. On retrouve une forme de racaille qui n'ont plus aucun respect. Moi, j'ai des détenus avec qui j'avais rendez-vous parce qu'on travaillait que sur rendez-vous, pas dans le temps, mais maintenant, là, depuis quelques années, on travaille que sur rendez-vous. J'ai des détenus, quand ils étaient demandés par le surveillant, ils avaient pris rendez-vous avec moi. Ils disaient, non, moi, je préfère regarder la télé ce soir, cet après-midi, je n'ai pas envie d'y aller. Donc voilà, ce que ne faisaient pas les anciens détenus. Oui, il y a une grande différence. Il n'y a plus de respect. C'est clair. C'est très clair.
Et du coup, au fur et à mesure de vos visites auprès des détenus, est-ce qu'ils ont pu vous parler donc, de leurs difficultés qu'ils avaient pu rencontrer donc, dans le milieu carcéral, que ce soit dû à cause de l'isolement ou...
Oui, absolument. Des difficultés. Alors déjà, beaucoup de difficultés. Oui, l'isolement, c'est très dur à vivre. La promiscuité est très, très dur à vivre. Hein. Et le fait de vivre en cellule, dans une pièce qui est plus petite que ça, à 4 ou 5, c'est quand même très, très, très problématique. Ça, c'est des difficultés, je dirais, physiques. Par contre, il y a des difficultés physiques et morales. Il y a des difficultés importantes, c'est toutes les difficultés administratives. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un certain nombre de détenus plus âgés qui arrivaient en fin d'activité professionnelle, enfin, qui avaient passé plus de temps en prison qu'en activité professionnelle, d'ailleurs, pour certains. Mais ils me disaient, bon, pour ma retraite, comment je vais faire ? Alors, il y a bien des assistantes sociales, il y a bien tout ça, mais comme elles sont dépassées, ça sera peut-être votre boulot un jour, d'ailleurs. Hein, mais comme souvent, il y a tellement de travail qu'il y a des priorités. Donc, moi, je me suis occupé d'un certain nombre de dossiers de retraite, d'un certain nombre de dossiers d'avocats, de choses comme ça. Leur difficulté, c'est ça, c'est de rencontrer les gens compétents au bon moment. Parce que pour prendre des rendez-vous avec un avocat ou avec quelqu'un des caisses de retraite, ben ça demande longtemps. On n'a pas le rendez-vous le lendemain. Ça, c'est un des éléments. Puis d'autres difficultés, trouvent-ils ? Je suis un peu moins d'accord avec eux, mais quand même, c'est les rendez-vous avec les médecins, enfin avec le monde médical, que ce soit les dermatos, les ophtalmos, etc. Alors, certains détenus me disent, tu te rends compte, pour avoir l'ophtalmo, il faut 6 mois ici. Bah, je dis, viens, tu vas voir à l'extérieur, hein, il faut des fois 1 an pour avoir un ophtalmo. Voilà, ils sont un peu concentrés, enfin centrés sur leur vie à eux, le reste n'existe pas. Voilà. Mais beaucoup de difficultés et... Très franchement, quelqu'un qui passe qui passe 2-3 ans en prison, il est marqué à vie de toute façon.
Et est-ce que vous pensez que l'écoute que vous avez eue lors de vos visites, elle a pu jouer un rôle dans la réinsertion de certains détenus ?
Oui, oui. Je ne vais surtout pas me donner une médaille, hein, mais oui. J'en ai un notamment dont j'ai un chapitre sur lui d'ailleurs, avec qui je m'entendais bien, mais lui, son problème, c'est qu'il était alcoolique jusqu'à la moelle, et donc dès qu'il était alcoolique avec sa copine, il la tabassait, il cassait les meubles, les trucs. Alors donc, sa copine appelait les flics venaient le chercher, et il repartait en prison, à la maison d'arrêt, toujours. Là, lui, il était en maison d'arrêt, il prenait 6 mois, 1 an de prison. Bon, alors je l'ai rencontré en maison d'arrêt plusieurs fois, et voilà. Et puis il me dit, ah ben tiens, je vais être libéré prochainement. Ben, je dis, très bien. Je dis, tant mieux. Je dis, après, ça va bien se passer. Il me dit, oui, je vais être sage et tout. Il a été libéré. 6 mois après, son ami me téléphone, elle me dit, écoutez, je n'en peux plus. Jeff, je ne sais plus comment je l'appelle là, parce que j'ai changé les prénoms hein, de tous les gens. Il continue à boire, il me bat, il casse les meubles, j'en ai ras-le-bol, je ne peux plus le voir. Bon, il est retourné en prison. En prison, il m'a redemandé, je l'ai revisité. Et puis, très bien, il a été, je ne sais pas, 1 an peut-être à la maison d'arrêt. Et il me dit, ça y est, je vais être libéré. Et je fais beaucoup de choses pour lui, pour l'aider. Il me dit, je vais être libéré. Ben, je dis, très bien. Alors, je dis, je t'avertis, tu vas être libéré. Très bien. Par contre, tu ne fais plus ce que tu faisais, parce que si tu reviens en prison, moi, je ne te visite plus. C'est terminé, on ne se connaît pas. Ça l'a beaucoup marqué. Et effectivement, il est retourné chez lui et ça s'est toujours très bien passé. Et son ami me téléphonait de temps en temps et lui-même me téléphonait de temps en temps parce que lui avait mon téléphone, ce qui n'est pas très catholique, si je puis dire. Et il me dit, bon, ce matin, c'est dur. J'ai bu une bière ce matin de bonne heure au réveil. Je dis, non, on ne boit pas de bière à 8 heures le matin, c'est pas bien. Et honnêtement, je ne l'ai pas sorti parce qu'on ne le sort pas. Mais je crois que je l'ai aidé. Je crois que je l'ai aidé. Puis il est mort comme un chien dans la rue. Mais voilà, après. Voilà. Mais je regrette rien.
De sourire dehors à Angoulême, un chasse-plin Melchior, Paris s'échelle, découvrir ton corps depuis la scène. Décor, Lucrèce et Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas, le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île au cerf, l'orage est de l'or pour se perdre. I need your soul, oh, I want.
reprendre, si vous deviez résumer votre engagement en quelques mots, bah, lesquels vous choisirez pour résumer cette mission qui a marqué votre vie ?
Quels mots ? Pour faire cette mission, déjà, il faut aimer les gens. Je dirais aimer les gens, avoir envie de les aider, mais pas de les aider parce qu'on les aide, mais c'est des petits coups de main qui servent, enfin, qui sont très petits. Mais les tout petits coups de main qu'on peut donner à ces gens-là, j'aime pas le terme ces gens-là, je l'emploie beaucoup dans mon livre parce que j'ai eu. Voilà. Le peu de choses qu'on leur apporte, c'est déjà beaucoup. Ils ont besoin de tellement de choses que ben, on leur apporte un visage, une vue sur l'extérieur. On leur parle de l'extérieur. On les encourage à être bien en prison pour qu'ils puissent après bien rebondir le jour où ils seront libérés. Pour moi, c'est essentiel. Et puis encore une fois, aimer les gens, ne pas les juger, surtout ne pas les juger. Et puis le respect de l'engagement. Ça, c'est très important. Je me suis engagé il y a maintenant un paquet d'années. Et de la même façon que quand j'avais mon association sur Madagascar, je m'étais engagé dans cette association. Je l'ai eu pendant 12 ans et on a fait du bon boulot. Et j'ai visité une prison à Madagascar. Et je peux vous dire qu'une prison à Madagascar, ce n'est pas le Club Med. Hein. Non. Ce n'est pas le Formule 1 non plus. Non. Voilà, non, mais moi j'ai. Alors pour juste clôturer votre question, j'ai fait ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir. C'est peut-être excessif de dire de plaisir, mais j'ai vraiment aimé faire ça. Vraiment aimé faire ça. Là j'ai arrêté parce qu'encore une fois je commence à prendre un peu d'âge, puis maintenant que ma femme est décédée, c'est un peu plus compliqué pour moi la vie. Mais parfois je me dis, oh, je devrais continuer, mais je ne le ferai pas maintenant. Parce que vous voyez, j'ai essayé, après le décès de mon épouse, j'ai continué un peu, mais je me suis rendu compte très vite que ce que je faisais, ça ne collait pas. Donc il faut arrêter, il faut savoir être sage, et voilà.
D'accord. Et du coup, je voulais revenir sur un point du coup, donc, dans votre carrière. Suite à la sortie de votre livre, maintenant il y a un an, donc, oui. Parloir en Parloir, qu'est-ce qui vous a inspiré du coup à écrire ce livre ?
Ce qui m'a inspiré, je n'avais absolument pas d'idée d'écrire un bouquin, absolument pas. Et je me disais très souvent, quand je rentrais le soir de la prison, je disais à mon épouse, oh, tiens, ce serait bien que je note un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui, quoi, voilà, quelques repères de la journée, voilà, ce que je n'ai jamais fait. Et puis il s'est trouvé qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai été invité par les Zénithiers de Cholet, c'est un club service comme le Rotary, comme le Lyons, etc. Voilà, c'est un club service. Je connaissais très bien le président qui m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est sympa, ça serait bien que tu nous fasses une conférence un soir. Bah, j'ai dit, si tu veux, hein, pas de problème. Donc, pas de problème. On a fait une conférence à Cholet. J'ai fait une conférence un soir à Cholet. Il y avait 80 personnes à peu près, 70, 80, je ne sais pas. Mon épouse était là, des amis, etc. Et puis, ça a duré 1h30 au lieu d'une heure prévue au départ. Et à l'issue, beaucoup de personnes sont venues me trouver en me disant, bon, on se tutoie tous dans les clubs services, c'est pour ça. Hein. Ils m'ont dit, ce que tu nous as dit, c'est fabuleux. Enfin, ça nous a passionnés, mais on est sur notre fin. On n'a pas été assez loin. Tu nous as pas dit plein de choses, il nous manque plein de choses. Ils m'ont dit, il faut que tu écrives un bouquin. Bon, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et puis, j'ai réfléchi un peu, 1 mois, 2 mois. On a parlé avec mon épouse. Et puis, je me suis mis à écrire. Voilà, j'ai repris papier-crayon un matin. Et je me suis dit, je vais parler du premier détenu que j'ai visité, celui qui était introverti, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette rencontre m'est revenue, tout, parce que j'évitais pendant 4 ans et demi, lui. Et ces 4 ans et demi me sont revenus, mais alors comme si je l'avais vu la veille. Et tous les autres, ça a été pareil. Donc voilà, je suis assez content d'avoir fait ce bouquin. Pourquoi ? Pour montrer aux gens que l'incarcération, ce n'est pas une fatalité. Pour montrer aux gens que la vie des détenus, parce qu'on dit souvent, oui, s'ils sont en prison, c'est bien fait pour eux. Eh bien non, oui, c'est bien fait pour eux, sans doute. Mais ce que je dis souvent aux gens qui m'interpellent là-dessus, et ils ont bien raison, je dis, si vous aviez eu la jeunesse, l'adolescence, etc., de ces gens-là, moi j'ai un détenu dont la mère tapait sur son crâne avec des talons aiguilles. Hein, voilà, j'ai entendu des choses, et encore, j'ai pas pu tout raconter tellement il y a des choses difficiles à entendre, et voilà. Donc voilà, c'est ces gens-là, comme on dit, ben, ces gens-là méritent qu'on s'intéresse un petit peu à eux. Je parle souvent de cabosser. Quand je dédicace mon bouquin, je l'ai encore fait la semaine dernière à Angers, là. Voilà, je dis merci d'écouter les cabossés de la vie. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir échangé avec nous, d'avoir pu répondre à nos questions. et bonne journée à tout le monde.
Merci. Bah, écoutez, je suis ravi de vous avoir éclairé un peu. Et si ça vous a plu, je vous remercie.
Merci.
Bonne journée.
Les engager
avec les BUT Carrière Sociale.